Europe Soir Weekend.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous accueillir pour vous accompagner jusqu'à 19h, notamment si vous êtes sur la route de vos vacances, car vous avez été très nombreux à prendre le large. 1000 km de bouchons à la mi-journée et peut-être pour certains, une drôle de surprise à l'arrivée, l'obligation de remettre le masque dehors, car certains maires de stations balnéaires s'inquiètent avec la propagation du variant Delta. C'est le cas du maire du Touquet, Daniel Fasquel. Il sera mon invité dans un instant. On lui demandera aussi ce qu'il attend de l'allocution d'Emmanuel Macron lundi à 20h. Comme il faut se détendre parce que c'est les vacances, Nicolas Carreau vous donnera des idées de lecture tout l'été, Philippe Dian ce soir. Et puis juste avant 19h, nous prendrons la direction de Londres. La fièvre monte à la veille de la finale de l'Euro entre l'Angleterre et l'Italie. Mais d'abord, on fait un tour d'horizon de l'actualité car il est 18h sur Europe 1.
Entre le Covid qui fait qu'on était confinés, en plus la première année de médecine, moi j'étais complètement dans ma chambre, là je suis hyper contente de pouvoir partir.
Et je vous le disais, beaucoup de monde à vouloir prendre le large sur les routes de France, notamment pour ce grand week-end de départ en vacances, un pic de plus de 1000 km de bouchons à la mi-journée et 900 000 voyageurs attendus dans les gares. Dans l'actualité, une altercation dans une boutique de téléphonie dans un centre commercial en Seine-et-Marne qui vire au drame. Un vendeur poignardé à mort par un client mécontent. Et puis un retour très attendu ce soir au Festival de Cannes. La grande Catherine, Catherine Deneuve, monte les marches, première apparition publique de l'actrice depuis son AVC. C'était il y a 2 ans.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Mais pour commencer, on va prendre la direction de la route du Tour de France. Arrivée de la 14e étape à Quillan dans l'Aude. Sur la ligne d'arrivée, bien sûr, Axel May, après une étape de 187 km qui s'annonçait éprouvante, Axel, au point que le Français Warren Barguil a tout simplement décidé de renoncer ce matin avant le départ, pris dans une chute hier. Mais ce soir, la bonne nouvelle, Axel, eh bien, c'est qu'un Français est deuxième au classement général.
Oui, oui, qui l'eût cru que ce matin que Guillaume Martin, qui était 9e du général à 9 minutes 30 du maillot jaune, serait ce soir 2e. Alors certes, le grimpeur normand est encore loin de Tadej Pogacar, hein, plus de 4 minutes, mais il a plus d'une minute d'avance sur le 3e, le Colombien Rigoberto Urán. Et alors que les Français étaient en difficulté ces derniers jours, on pense à David Gaudu qui a perdu beaucoup de temps sur le Mont Ventoux, on pense aux abandons plutôt hors délai des sprinteurs Arnaud Démare, Brian Coquard, à l'abandon ce matin de Warren Barguil. Eh bien, cette remontée au classement fait du bien pour le clan tricolore, estime l'ancien double vainqueur du Tour, Bernard Thévenet.
Bien sûr, ça met du baume au cœur cette performance de Guillaume Martin, même si bon, on a l'impression que ses adversaires l'ont peut-être un peu mésestimé. Mais bon, c'est très intelligent de sa part de s'être inclus dans cette échappée, de remonter comme ça au classement. Hein.
Si le grimpeur normand a réussi à prendre la bonne échappée, l'étape a été remportée en solitaire par l'expérimenté rouleur néerlandais Bauke Mollema. A noter, changement aussi de maillot à poids. C'est désormais Michael Woods, le Canadien, qui est maillot à poids de meilleur grimpeur. Et puis, je terminerai en disant que Nasser Bouhanni, le sprinteur, a eu chaud. Hein. Il est arrivé dans les délais, mais il a eu du mal à terminer cette étape alors qu'il reste une étape dans les Pyrénées demain, la journée de repos lundi, et puis à nouveau 3 étapes dans les Pyrénées.
Une journée de repos qui sera sûrement très attendue par les coureurs. Axel May sur la route du Tour de France.
C'était le point étape. Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec Total Energy.
Beaucoup, beaucoup de monde, je vous le disais, sur les routes aujourd'hui pour prendre le large pour ce nouveau week-end de départ en vacances, jusqu'à 1100 km de bouchons à la mi-journée pour ce samedi classé rouge. Beaucoup de monde attendu aussi dans les gares, jusqu'à 900 000 voyageurs, comme ceux rencontrés par Marion Gauthier, Garmon Parnasse à Paris, très heureux de prendre le large.
On a vu la météo, il va pleuvoir toute la semaine. On est dans une tente, mais c'est pas grave, on est trop contente de partir de Paris. C'est difficile de la tenir en place, mais...
C'est vrai que là, il faut la décrire, elle fait le tour de sa maman depuis 5 minutes.
C'est vraiment le bonheur.
Bah, entre le Covid, qui fait qu'on était confinés, en plus, la première année de médecine, moi, j'étais complètement dans ma chambre. Là, je suis hyper contente de pouvoir partir, sortir.
On va en Auvergne, essayer de trouver un endroit tranquille où il n'y a pas grand monde. Pas de Covid, un peu d'escalade, et puis c'est tout, quoi.
Depuis 5h ce matin, on est en mode attente. Attente à l'aéroport, attente à la gare. On a hâte, ça ira mieux ce soir.
Alors certains d'entre vous auront peut-être la surprise en arrivant à destination de voir, de devoir remettre le masque dehors dans certaines stations balnéaires, où certains maires l'imposent de nouveau par crainte du variant Delta désormais majoritaire. C'est le cas au Touquet, dans le Pas-de-Calais. Le maire Daniel Fasquel nous dira pourquoi il a fait ce choix. Il est mon invité dans un instant. Le débat existe alors qu'a été inauguré Paris Plage 2021 cet après-midi. Yasmine Akatou, vous êtes sur les quais de la Seine. Est-ce qu'il a été envisagé justement des mesures particulière concernant le port de ce masque dans le cadre de Paris Plage?
Alors, pas de mesures spécifiques pour lutter contre le variant Delta ici. La maire de Paris en appelle au bon sens des visiteurs. Du gel hydroalcoolique est à leur disposition. Et les fameux transats rouges sont espacés d'environ un mètre. Et ici, sur les quais de Seine, le masque est seulement recommandé, rappelle Anne Hidalgo.
En fait, il est obligatoire sur des activités à l'intérieur, quand on est trop proche les uns des autres. Mais sinon, c'est un espace extérieur, comme une rue, comme je dirais l'espace public. Et donc, pour l'instant, on profite quand même de cette possibilité de respirer.
Une liberté dont profite Elisa, visage démasqué. Malgré un soleil complètement absent et quelques gouttelettes, la Parisienne savoure son week-end face aux rives de Seine.
Je suis assise sur les bords de Seine, allongée dans mon transat, avec une bière, sous un parasol. Mais bon, il fait pas très beau.
Parasol qui sert plutôt de parapluie, du coup.
Oui, exactement. Mais bon, c'est sympa, je suis détendue.
Elisa reviendra au cours de l'été pour profiter, elle l'espère, sous un ciel un peu plus bleu.
Yasmina Katou, et on verra aussi ce qu'en dira Emmanuel Macron de ce port du masque lundi depuis l'Élysée à 20h lors de son allocution. Dans l'actualité aussi ce soir, cette altercation dans une boutique de téléphonie dans un centre commercial de Clé-Souilly en Seine-et-Marne qui a viré au drame. Un vendeur a été poignardé à mort par un client mécontent, Chloé Triomphe.
Oui, les faits se sont déroulés peu après 13h dans un magasin de téléphonie du centre commercial de Clé-Souilly. D'après les premiers éléments de l'enquête, une altercation aurait éclaté entre un client et l'un des vendeurs de la boutique, un différend commercial sur une facture qui a rapidement tourné à l'altercation. Mais quelques minutes après avoir quitté les lieux, le client, un homme de 62 ans, est revenu armé d'un couteau qu'il a planté en pleine poitrine du vendeur avant de s'en prendre à un second vendeur qui tentait de s'interposer. Le client a pris la fuite et quelques mètres plus loin, c'est un policier de la BRI en civil et hors service, ainsi qu'un agent pénitentiaire, lui aussi en repos, qui ont interpellé l'assaillant. Le jeune vendeur, âgé de 18 ans, n'a pas pu être réanimé par le secours. La seconde victime, un jeune homme de 20 ans, se trouve toujours à l'hôpital dans un état grave.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Et à Paris, cette fois, rue de Rivoli, c'est un homme né en Roumanie et qui, d'après les premiers éléments de l'enquête, était fortement alcoolisé, qui a agressé avec un cutter un couple de passants. La victime d'origine espagnole a été légèrement blessée et conduite en milieu hospitalier. C'est ce que précise ce soir la préfecture de police de Paris. À Venise, le feu vert du G20 donné à l'accord sur la taxation des multinationales qui avait déjà été acté par le G7. Un feu vert confirmé ce soir par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
C'est une excellente nouvelle pour les États du G20, c'est une excellente nouvelle pour toutes les nations de la planète. Car nous opérons aujourd'hui une révolution fiscale. Nous tournons le dos à des décennies de courses vers le moins-disant fiscal qui ont montré que c'était totalement inefficace et que ça ne nous permettait pas d'avoir les ressources nécessaires pour financer les services publics, les biens publics et la lutte contre le réchauffement climatique qui a un coût financier extrêmement important. Nous allons enfin avoir les gens du digital qui échappaient largement à l'impôt, qui vont être taxés. Et nous allons mettre fin à l'évasion et à l'optimisation fiscale de ces multinationales qui venaient dans un pays faire des profits et qui allaient payer leurs impôts dans un autre pays.
Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, après que le G20 ait donné donc son feu vert à la taxation des multinationales. Direction Cannes maintenant, avec un retour très attendu ce soir au festival. Catherine Deneuve qui monte les marches. Une première apparition publique, Mathieu Charrier, depuis son AVC, c'était il y a presque 2 ans.
Oui, la reine Catherine attendue dans quelques minutes sur le tapis rouge, puis en son palais, ce palais des festivals où elle a tout connu ou presque. Ce sera sa première apparition publique depuis cet AVC sur le tournage du film d'Emmanuel Berco, De son vivant. C'était en novembre 2019, film dont le tournage s'est achevé des mois plus tard, le temps que Catherine Deneuve se remette, et film qu'elle vient donc présenter sur la croisette, tout un symbole. Je peux vous dire que plus de 200 photographes se sont accrédités pour être sur les marches en ce moment même et attendre, appareil photo en main, l'arrivée de Catherine Deneuve. Et puis juste après, deuxième projection officielle du soir, celle du nouveau film de Sean Penn, Flag Day, là aussi tout un symbole, puisqu'il y joue aux côtés de sa fille, Dylan Penn, dont c'est la première apparition au cinéma. C'est d'ailleurs un très beau film sur les rapports père-fille. Sean Penn, dont c'est lui aussi le grand retour à Cannes, 5 ans après la présentation catastrophique de son film The Last Face, qui avait été assassiné par les critiques. Enfin, pour clore le tout, à minuit, Suprême sera présenté toujours dans le Grand Théâtre Lumière et ses 2400 sièges. Film signé Audrey Estrougo qui raconte la naissance du groupe NTM, projection en présence de Joystar. Donc c'est une grande soirée de gala qui s'ouvre en ce moment même sur la croisette et sous le soleil.
Eh ben, sous le soleil, vous avez bien de la chance, Mathieu Charrier. Justement, Laurent Cabrol, est-ce qu'il faut s'attendre au même bonheur dimanche ?
Eh bien, savourons-la cette journée, Fabienne, parce que cette journée de dimanche s'annonce de manière spectaculaire, ensoleillée et très chaude. Alors effectivement, il y aura quand même des passages nuageux sur la moitié nord, on ne peut pas rêver. Mais les éclaircies vont l'emporter, excepté sur la Bretagne où il pleuvra un petit peu. Mais partout ailleurs, c'est le soleil qui s'imposera très vite, notamment dans les régions méridionales où nous atteindrons les 34 degrés à Nîmes, 33 à Albi, 32 à Carcassonne et Toulouse, 31 à Marseille, rendez-vous compte, 28 à Lyon. Et puis les températures, disons, un peu plus agréables à Paris, 24 degrés, c'est pas mal. 22 à Lille, mais un peu frais à Brest et Boulogne-sur-Mer. 18 degrés pour demain après-midi.
Merci Laurent Cabrol. On vous retrouve juste avant 19h, notamment pour la météo des plages.
Europe Soir Weekend, Fabienne Lemoyle.
À suivre, le variant Delta inquiète. Certains maires ont tout simplement décidé de rendre le masque obligatoire dans les lieux les plus fréquentés en extérieur. Comment faire respecter cette obligation sans braquer les vacanciers? On va poser la question dans un instant au maire du Touquet, Daniel Fasquelle. Il a pris cette décision et puis on parlera aussi un peu politique parce que la politique ne prend pas de quartier d'été. On lui demandera comment il voit l'organisation de la primaire chez les Républicains.
Dans quelques instants, retrouvez l'entretien de Philippe Legrand avec la compagnie de croisière Ponant. Destination d'exception, art de vivre à la française. Vivez des instants de voyage privilégiés. Plus d'infos sur ponant.com.
Enfin les vacances. Je vais m'offrir une nouvelle paire de lunettes de soleil.
Et moi, des nouveaux pneus.
Et si on faisait les deux ? Du 1er au 31 juillet, Michelin vous offre jusqu'à 100 euros de chèque cadeau à dépenser dans plus de 700 enseignes. Profitez-en vite.
Dans la limite des 100 000 premières inscriptions. Voir conditions en point de vente et sur offrepromo.michelin.fr.
Nous sommes les donneurs de sang.
Ceux qui donnent parce que c'est solidaire.
Ceux qui donnent parce que c'est pas la mer à boire.
Ceux qui, chaque année, participent à soigner 1 million de personnes.
Nous sommes les changeurs d'histoire.
Les joueurs collectifs, les optimistes nés.
Rejoignez-nous.
Devenez donneurs.
Les stocks sont au plus bas. Il est urgent de donner. Rendez-vous sur le site de l'établissement français du sang.
Le musée de la vie romantique vous invite à découvrir l'exposition « Tempêtes et naufrages » de Vernet à Courbet. À travers une sélection d'une soixantaine d'œuvres de 30 artistes, embarqués pour un récit vivant et illustré de la tempête maritime et des naufrages. Les paysages maritimes comme reflet de l'âme romantique à retrouver dans l'exposition « Tempêtes et naufrages » prolongée jusqu'au 12 septembre au musée de la vie romantique.
Avec Europe 1.
Europe Soir, Fabienne Lemoyle.
C'est donc le début des vacances pour beaucoup d'entre vous et vous allez peut-être avoir la désagréable surprise en arrivant à destination de devoir remettre le masque en extérieur. La faute à la propagation du variant Delta qui devient majoritaire en France et qui inquiète les maires de plusieurs villes balnéaires. Bonjour Daniel Fasquelle.
Bonjour.
Maire Les Républicains du Touquet sur la Côte d'Opale dans le Pas-de-Calais. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Donc au Touquet, ces masques de nouveau obligatoires dans certaines rues de la ville.
Absolument. Alors c'est uniquement dans l'hypercentre, hein, ça représente moins de 5% du territoire de la commune, et sur le marché, les jours de marché, c'est-à-dire dans les lieux qui sont extrêmement fréquentés, en particulier évidemment pendant cette saison estivale où il peut y avoir potentiellement un risque de propagation du virus, puisque le nouveau virus est 70% plus contagieux que le précédent variant, et donc voilà, on veut protéger la population, les visiteurs et permettre à chacun de passer des vacances en toute sécurité, en toute sérénité.
Alors vous n'avez pas peur quand même que ça braque un peu les vacanciers, sachant que le tourisme, j'imagine, pour vous c'est vital, hein, pour l'économie locale, puisque je crois que votre population est multipliée par 10 l'été ?
Oui, même plus que cela parfois. Mais non, moi, d'abord, je pense que c'est un message qui est parfaitement bien reçu par ceux qui viennent au Touquet Paris Plage. On prend soin d'eux, on assure leur sécurité. Puis vous savez, la pire des choses pour l'économie touristique, ce serait que l'on ait un nouveau confinement à la suite de la quatrième vague. Cette quatrième vague, elle est malheureusement devant nous. On aura beaucoup de mal à l'éviter. Ce qu'il faut, c'est que l'on se vaccine les plus nombreux possibles. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai maintenu mon centre de vaccination pendant tout l'été. Et que par ailleurs, on maintienne les gestes barrières tant qu'il n'y aura pas une immunité globale. Mais je crois qu'il vaut mieux porter le masque. Certains diront pour rien, moi je ne le pense pas. Mais il vaut mieux porter le masque, accepter ces gestes barrières, se faire vacciner plutôt que de vivre un nouveau confinement qui là pour le coup serait fatal pour notre économie de façon générale et en particulier pour l'économie des territoires touristiques.
Comment vous faites justement pour faire respecter cette obligation? Je crois qu'il y a des ambassadeurs du Covid, c'est ça?
Absolument. Alors le périmètre est très raisonnable, hein. C'est vraiment l'hypercentre de la
station.
C'est
pas le bord de mer par exemple?
Non, voilà, on peut se promener sur le bord de mer, dans les dunes, sur la plage sans masque. C'est uniquement là où il y a vraiment une fréquentation qui peut être à certains moments très très forte. On est très près les uns des autres. Alors il y a des panneaux qui indiquent clairement ce périmètre. Et puis j'ai embauché en service civique un certain nombre de jeunes ambassadeurs qui sont là, bah, évidemment, avec le sourire pour vous rappeler l'obligation de porter le masque. Ils ont des masques évidemment à vous donner si vous avez oublié votre masque chez vous. Et très franchement, ça facilite la vie de tous. Les commerçants ont salué aussi cette mesure parce que quand on n'a pas le masque dans la rue, on rentre dans un commerce, on oublie de le mettre. Les commerçants passaient leur temps à rappeler aux uns et aux autres qu'il fallait qu'ils remettent le masque en rentrant dans leur commerce. Bon, voilà, c'est simple. On rentre dans ce périmètre, là où se trouve l'essentiel des commerçants touquetois. On a le masque sur le visage et quand on rentre dans les commerces, on maintient évidemment le masque. Gel hydroalcoolique à l'entrée des commerces. Les gestes barrières, la vaccination, on est mobilisé pour permettre de passer de bonnes vacances, des vacances agréables sans prendre de risques et puis surtout pour éviter un nouveau confinement.
On entend bien, Daniel Fasquelle, ce souci de pédagogie, donc pas d'amende, pas de sanction si on ne veut pas mettre son masque.
S'il y a vraiment des récalcitrants et après voilà des demandes répétées et aimables de porter le masque, si certains ne veulent absolument pas porter le masque, bien évidemment, il y a la possibilité d'une amende. La police municipale est là, on fera tout pour éviter d'avoir à mettre des amendes. Enfin, je le dis clairement, la règle, elle est la même pour tous. Personne ne peut s'en émanciper. Donc, si quelqu'un refuse obstinément de porter le masque, il prend le risque d'une amende de 135 euros.
Alors Emmanuel Macron va parler aux Français lundi soir à 20h. Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous attendez des mesures plus fortes, notamment sur le pass sanitaire, notamment sur la vaccination?
Je crois qu'il faut effectivement maintenant accélérer la vaccination, rendre la vaccination obligatoire pour les personnels de santé, c'est évident. Trouver les voies et moyens de faire en sorte que nos compatriotes se vaccinent encore plus nombreux. Et moi, je suis très favorable au développement du pass sanitaire parce que c'est vrai que si on est obligé à chaque fois de faire un test pour toute activité que l'on veut mener, bien certains qui sont réticents aujourd'hui finiront par se faire vacciner parce que ce sera plus simple pour eux dans leur vie au quotidien, pendant leurs vacances, pour leurs loisirs. Donc moi, je suis favorable au développement du pass sanitaire et ce qui permettrait d'ailleurs du coup peut-être de lever des limites de jauge hein, qui sont pénalisantes aujourd'hui pour ces activités économiques. Donc autant développer le pass sanitaire, ça facilitera la vie des acteurs économiques et ça obligera ceux qui ne veulent pas aujourd'hui se faire vacciner à se faire vacciner parce que c'est la seule solution, encore une fois, si on veut tourner définitivement la page de la crise sanitaire.
Alors deux dernières questions, Daniel Fasquelle, parce que la politique ne prend pas ses quartiers d'été. On est en plein débat chez les Républicains sur l'organisation de la primaire. Pour vous, cette primaire, elle s'impose?
En tous les cas, si on n'est pas capable de dégager un consensus d'ici septembre-octobre, oui, il faudra bien trouver un mode de départage. Donc on ne perd pas l'espoir. Je viens de quitter Gérard Larcher qui était en déplacement dans le Pas-de-Calais. On a évoqué évidemment cette question. On a tous voilà, l'espoir de trouver un consensus autour d'un candidat pour l'automne. Mais si ce consensus n'arrive pas, il faudra bien trouver un mode de départage, alors qu'on l'appelle départage, primaire, procédure de rassemblement, peu importe les mots. À la fin, il faudra quand même trouver un processus qui permettra de départager les candidats potentiels, de choisir le meilleur candidat pour 2022. Parce que l'espoir renaît à droite de pouvoir gagner l'élection présidentielle. Et il ne faudrait pas gâcher cet espoir parce que c'est attendu par une grande partie de la population et nous pensons que c'est évidemment nécessaire et utile pour le pays.
Ça veut dire aussi, à contrario, que si on trouve ce bon candidat, pas besoin de primaire.
Si on trouve ce bon candidat, pas besoin de primaire. Aujourd'hui, Xavier Bertrand se détache dans les sondages, mais d'autres n'ont pas encore dit qu'il serait candidat. Ils vont se manifester pendant l'été. Avec Christian Jacob, nous avons décidé d'une enquête d'opinion qui permettra aussi de mesurer l'état de l'opinion, les attentes de l'opinion par rapport à la droite, mais également voilà, la façon dont il regarde des différents candidats potentiels. On aura les résultats de cette étude à la fin du mois de septembre. Un congrès est au même moment et bon, les militants auront à choisir soit un candidat, soit une procédure de départage à ce moment-là.
Je termine justement avec ça. Vous parliez de Xavier Bertrand. Vous avez été candidat dans les Hauts-de-France sur la liste de Xavier Bertrand. Lui a dit clairement qu'il ne participerait pas à cette primaire. Vous lui dites quoi ce soir ?
Je lui dis qu'il faut qu'on discute voilà, cet été, mais je sais que le dialogue est déjà engagé. De toute façon, on ne peut pas se permettre d'avoir deux candidats. Xavier Bertrand a besoin et aura besoin des Républicains demain pour gagner, comme il a eu besoin des Républicains dans la région de France pour gagner, si c'était lui notre candidat. Et par ailleurs, on sait très bien que on ne pourra pas nous gagner si Xavier Bertrand est candidat, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout du processus. Donc, il faut qu'on discute, qu'on dialogue, qu'on lance soit intelligent, qu'on ne soit plus la droite la plus bête du monde et qu'on sache, voilà, par le dialogue, par le consensus, nous rassembler pour proposer aux Français un candidat, une plateforme, un projet pour redresser le pays.
On a bien compris, un seul candidat, pas deux candidats, pas un qui serait issu d'une primaire ouverte aux droites au centre et Xavier Bertrand à côté.
Absolument, voilà, je pense que c'est quelque chose, ce serait le pire des scénarios parce que ce serait la certitude d'être éliminé du second tour de l'élection présidentielle et je pense que voilà, nos électeurs ne l'accepteraient pas et ne pourraient pas nous le pardonner. Donc il faut par le dialogue, par la discussion, en fonction aussi de l'évolution de la popularité des uns et des autres, des rapports de force qui se dégageront fin septembre, en octobre au plus tard, faire un choix et puis notre candidat, eh bien, il pourra commencer sa campagne de candidat unique de la droite et du centre à partir du mois de novembre. Et quand vous regardez les élections présidentielles précédentes, hein, c'est en novembre en réalité que les choses se sont la plupart du temps décantées. Donc on se donne pour objectif d'avoir un candidat que l'on pourra officiellement mettre en place à partir du mois de novembre, sachant qu'on a le premier réseau d'élus locaux de France, on a le premier réseau de militants de France, on est la première force d'opposition à l'Assemblée nationale, le groupe le plus important au Sénat, et puis on a aussi les moyens financiers, après 6 ans d'efforts, pour pouvoir financer aussi une campagne d'un candidat à l'élection présidentielle. Donc, encore une fois, les LR seront de toute façon, quoi qu'il arrive, au cœur de la campagne présidentielle du candidat de la droite et du centre pour 2022.
Merci beaucoup Daniel Fasquelle. Je rappelle, maire Les Républicains du Touquet et trésorier des Républicains aussi, d'avoir été ce soir avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup.
Merci.
Europe Soir Weekend, Fabienne Lemoyle.
Et à 18h21, quoi de mieux pour se délasser quand on est en vacances qu'un bon roman ? Qui mieux pour nous en parler que le monsieur livre d'Europe 1, Nicolas Carreau ? Écoutez son conseil, restez avec nous, c'est dans un instant.
Europe Soir, Fabienne Lemoyle.
Et c'est donc une habitude qu'on va avoir plaisir à prendre tout l'été, les conseils du monsieur livre d'Europe 1. J'ai nommé Nicolas Carreau. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Et on va vous retrouver tous les week-ends dans le 18-19. Et ce soir, vous nous parlez donc du roman d'une des icônes de la littérature française.
Philippe Dian, oui, l'auteur de 37 de le matin. On attend chaque année son nouveau livre et il en publiera un nouveau à la rentrée. Mais en septembre dernier, il a publié 2030 chez Flammarion. Le titre aurait pu être 47 de le matin parce qu'il fait chaud dans ce roman, terriblement chaud. Le genre de livre qu'il faut lire avec une boisson fraîche. Nous sommes en 2030, donc, comme le titre l'indique, et le réchauffement climatique ne s'est pas arrangé. L'herbe verte est très rare, elle est plutôt jaune, brûlée. Les clims sont partout parce que donc on étouffe, mais évidemment la clim n'arrange rien au problème global de réchauffement. On ne possède quasiment plus de voitures à moteur thermique, en revanche, c'est plutôt mal vu, mais on se déplace en tacobule, des taxis volants. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait soigner tous les cancers. Alors attention, c'est pas pour autant un livre de science-fiction avec plein de gadgets du futur, c'est une légère anticipation. N'y allez pas pour lire de la SF, ce n'est pas le propos.
C'est l'histoire qui se passe en fait dans ce contexte-là.
Exactement. Il y a là Greg qui travaille pour un laboratoire qui produit notamment un pesticide très très limite pour l'environnement. C'est son beauf, Anton, qui le dirige. Or, Greg tombe amoureux d'une militante écolo. Pas facile. Il essaye aussi de canaliser la fougue de Lucie, sa nièce, qui elle aussi veut changer le monde. Et puis, il y a Aude, la sœur de Lucie, clouée sur un fauteuil après un accident. On suit tous ces personnages dans un quotidien très gianesque, à la fois banal et diablement romanesque. Sur fond donc de la question de l'environnement, Greta Thunberg a 10 ans de plus et c'est une sorte d'immense vedette, genre Dalai Lama.
Mais donc il n'y a plus de débat sur le réchauffement ?
Si, justement, c'est ça ce qui est génial, parce que bon, là, dans le roman, il y a comme une évidence criante, mais il y a quand même encore et toujours des climato-sceptiques qui hurlent contre Greta Thunberg et les autres. C'est aussi ça ce qui intéressait Philippe Djian.
Parce que je sens cette inertie quand même par rapport aux changements qui ont lieu. Il y a une inertie, on s'habitue à tout, on s'habitue à manquer de certains médicaments, on s'habitue à plein de choses qui sont un petit peu ennuyeuses. Et moi, je pense que dans 10 ans, on sera embêté, on sera ennuyé. On va vous emmerder si vous voulez rouler en voiture personnelle. Mais on va s'adapter. Et c'est ce côté, c'est la résilience aussi des hommes qui est comme ça. On va résister à tout jusqu'au moment où on ne pourra plus résister.
Mais en fait, Nicolas, quand on entend Philippe Djian, c'est un peu ce que l'on vit maintenant ?
Absolument. Et comme dans tout bon livre d'anticipation, c'est d'abord une réflexion sur notre propre temps qui n'enthousiasme pas vraiment Philippe Djian, d'ailleurs.
On vit dans une époque que je n'aime pas du tout. En ce moment, je n'aime pas du tout ce qui se passe. Je n'aime pas du tout ce qui se passe parce que je pense qu'on aurait besoin un peu de sagesse, de tranquillité, de réflexion. Et il se trouve qu'on n'a pas tout ça. Pourquoi ? Parce que tout le monde prend la parole sans rien savoir. Et moi, je dis, si les gens qui ont la possibilité d'aller sur les plateaux télé, comme moi, par exemple, viennent la ramener sans rien savoir, eh ben ça va faire que les choses iront encore plus mal. Donc, taisons-nous ceux qui ne savent pas.
Eh ben voilà, taisons-nous et lisons, Nicolas.
Oui, parce que ce roman 2030, ce n'est pas seulement une mise en garde climatique, c'est surtout un roman avec des personnages très bien dessinés, comme il sait faire. C'est brillant, c'est du Djian.
Bien, merci beaucoup Nicolas Caro, 2030, donc c'est chez Flammarion et on vous retrouve avec plaisir aussi tout l'été pour La Voix libre le dimanche à 14h. Allez, si on prenait de mauvaises habitudes, non je plaisante, c'est juste parce qu'on va se détendre un petit peu avec le dernier single du chanteur britannique Ed Sheeran, premier morceau de l'artiste après 2 ans d'absence, Bad Habits. Voilà, Bad Habits, Ed Sheeran, premier morceau de l'artiste depuis 2 ans et l'album attendu pour le 5 septembre. Allez, changement d'ambiance dans un instant avec la nouvelle série L'été des présidents sur Europe 1. Mais à 18h30, on va avoir le rappel des titres.
Europe Soir Weekend, Fabienne Lemoyle.
Et ce tour de l'actualité en 2 minutes, c'est avec vous Damien Mestre.
Une agression au couteau en Seine-et-Marne dans un centre commercial. Cela s'est passé dans la ville de Clessouilly cet après-midi. Un homme a tué un vendeur Bouygues Télécom avant d'en blesser gravement un deuxième. Il s'agit visiblement d'une agression après un différend commercial. Le suspect a été interpellé. Il s'agit d'un homme de 62 ans. 1100 km de bouchons enregistrés à midi sur les autoroutes. C'est plus que l'an dernier à la même période. Des ralentissements, mais le soulagement à l'arrivée. On sera dans un camping du Calvados à 19h avec les premiers vacanciers. Des vacances après une année scolaire une nouvelle fois compliquée par le coronavirus. On connaît ce soir les résultats définitifs du bac. Près de 94% de réussite après les rattrapages. C'est 2 points de moins que celui de l'année dernière, mais c'est nettement plus qu'avant la pandémie. Un départ en vacances alors que le variant Delta du coronavirus suscite toujours des inquiétudes. Inquiétudes partout en Europe. Plusieurs pays se referment un petit peu plus aujourd'hui, comme aux Pays-Bas où les boîtes de nuit et les restaurants sont fermés à partir d'aujourd'hui. Même chose en Catalogne où l'on a refermé les discothèques. L'île de Malte interdit la venue de touristes non vaccinés. Cette fois-ci, c'est une première en Europe. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Le soulagement du ministre de l'économie Bruno Le Maire après l'accord du G20 conclu en fin d'après-midi. Accord sur une nouvelle taxation des multinationales. Il prévoit un impôt minimum mondial d'au moins 15% d'ici 2023. L'actualité à l'international est le Nigeria endeuillé par une nouvelle tuerie dans le nord-ouest du pays. On l'a appris ce midi, au moins 35 personnes sont mortes tuées dans une attaque. Attaque attribuée à des pillards et des voleurs de bétail, annoncent les autorités. Les assaillants ont pris la fuite avant l'arrivée des forces de sécurité. Et puis, Tadej Pogacar, toujours en jaune ce soir. 14e étape du Tour de France entre Carcassonne et Clion. C'est le néerlandais Bauke Mollema qui l'emporte cet après-midi. Le français Guillaume Martin passe lui deuxième au classement général.
Voilà, un français deuxième au classement général. Bonne nouvelle sur le Tour. Merci Damien Mestre et on vous retrouve dans une demi-heure pour le journal de 19h.
Écoutez le monde changer.
Europe Soir Weekend.
Et c'est le premier week-end de grille d'été sur Europe 1, il y a 18h33, premier épisode de notre série consacrée à quelques mois de la présidentielle aux étés des présidents de la 5e. Et pour commencer, bien sûr, le général de Gaulle, direction la Haute-Marne, car c'est à Colombelles-et-Deux-Églises, dans son domaine de la boisserie, que le général aimait à se ressourcer. Lui qui a écrit « Là, regardant l'horizon de la terre ou de l'immensité du ciel, je restaure ma sérénité », alors on part en balade avec Arthur Mbaché.
Avec nous, c'était la famille, c'était oncle Charles et tante Yvonne.
En vacances avec oncle Charles, de l'arrière de la Simca à ronde de son grand-père qui vient de passer le portail de la boisserie, Jacques Vendroux aperçoit l'homme du 18 juin. Il est midi, celui qui deviendra journaliste sportif à la radio, à 12 ans, il arrive pour les grandes vacances à Colombelles-les-Deux-Églises.
Mon grand-père me disait, attends, on est chez le président de la République. Ah bon ? Mais ça n'allait pas plus loin parce que lui faisait tout pour nous mettre à l'aise. Bon, le seul problème qu'on a découvert au bout de quelques jours de vacances, c'est qu'à un moment, on va pique-niquer dans une forêt qui est à 5 ou 6 kilomètres de Colombelles, où le général aimait aller. Et je me souviens très bien, on mangeait des œufs mayonnaise. Et on était tous assis, sur des petits fauteuils de camping, etc., en train de manger tous ensemble, etc. Et là, c'était un peu au moment de l'OAS, une organisation qui voulait tuer le général de Gaulle. Alors là, on s'est aperçu quand même que bon, c'était beaucoup plus important qu'on l'imaginait parce qu'il y avait des hélicoptères, il y avait des voitures de sécurité partout. Mais le général de Gaulle voulait absolument garder cette forme d'intimité familiale. Il essayait, quoi qu'il arrive, quel que soit le danger qu'il y avait contre lui, parce qu'il savait qu'il y a des hommes qui voulaient le tuer, il essayait systématiquement de garder le respect de la famille. Il voulait être en famille. Il y en a plein qui m'ont dit « Oui, il est lointain, c'est le général de Gaulle, sa femme Yvonne est un peu froide. » C'est archi faux.
C'est ici que le général de Gaulle a écrit ses mémoires, pas dérangé par le téléphone, remisé loin de son bureau, sous l'escalier, pas trop dérangé par ceux qu'il appelle affectueusement les chenapans. Aurore Jacquinot est la responsable de la boisserie, aujourd'hui ouverte voilà. Aux visiteurs.
Alors l'avantage ici, c'est que tout est resté en l'état. Vous avez également le poste de télévision. Hein. Alors à l'époque, deux boutons, deux chaînes. Et puis surtout, je vais vous montrer la derrière la télé. Alors pareil, il est d'époque, vous voyez, vous avez un jeu de Scrabble. Donc voilà, on sent ici que dans cette pièce, c'était vraiment le lieu de vie de la famille. À l'inverse, effectivement, là ici, vous avez le bureau. Alors là, nul ne s'aventurait à le déranger dans son bureau. Que ce soit ses enfants ou ses petits-enfants, ils ne rentrent pas. Pour eux, il y a toujours ce respect. Hein.
Même encore aujourd'hui.
Ah, même encore aujourd'hui. Hein. Vraiment, je l'ai vu. Alors, les petits-enfants, effectivement, avaient interdiction totale et absolue de jouer sous les fenêtres du bureau. Et par contre, vous voyez, dans le bureau du général, vous voyez au milieu, vous avez la photo qui représente les petits-enfants du général de Gaulle autour de la piscine de la boisserie.
L'avantage quand on veut travailler, c'est que les enfants en photo font moins de bruit.
Exactement, ça fait moins de bruit qu'en vrai. Oui, tout à fait, non, c'est exactement ça.
Et c'est maintenant le peloton, il va passer devant le général de Gaulle dans quelques instants.
16 juillet 1960, le Tour de France à Colombey. Le général dans la foule, sous le regard éberlué du journaliste d'Europe numéro 1, Frédéric Gillissen.
Fait exceptionnel dans ce Tour de France, le peloton est arrêté sur le bord de la route. Tous les coureurs retirent leurs casquettes et c'est un fait absolument extraordinaire. Car jamais dans l'histoire du Tour de France, un peloton n'a été arrêté. D'ailleurs, le général de Gaulle maintenant est descendu sur le bord de la route. Il a serré la main du maillot jaune, il a serré la main d'André Darriga, champion du monde. Le général de Gaulle fait un signe des bras. Salut tous les coureurs, salut maintenant Ercole Baldini qui lui a fait un petit clin d'œil et qui a retiré sa casquette au passage.
61 ans après son collègue reporter à Colombelles-les-Deux-Églises, Arthur Mbaché, Europe 1.
Et demain, Arthur Mbaché nous emmènera en balade à la découverte du parc national des forêts, toujours dans la même région.
Europe Soir Weekend, Fabienne Lemoyle.
Et tout l'été encore, Pierre Herbulot va nous faire saliver avec les recettes de grands chefs qu'il a rencontrés. Ce soir, au menu, écoutez bien la soupe de tomates de Marc Fontane.
J'annonce officiellement le grand retour des plats frais de l'été, nos meilleurs amis pour les deux prochains mois, comme cette soupe tomate basilic que l'on va faire avec Marc Fontane. Vous êtes le chef étoilé du Prieuré, hôtel relais et château à Villeneuve-les-Avignon, on est dans le Gard. C'est quoi la première étape pour la recette, chef?
Alors là, on va commencer par tailler nos tomates. Et même, je garde le pédoncule. Hein.
Ah bon?
Ouais, le pédoncule, c'est très bon. Ça va donner encore du goût. Donc là, je suis en train de les tailler vraiment grossièrement, comme ça. Voilà, dans mon cul de poule. Là, mon basilic, je le concasse vraiment grossièrement. Hein.
Ah oui, c'est pas dans la finesse, là.
Regardez, ma gousse d'ail, là. Une belle ail rose. Je vais l'émincer assez finement, hein, juste émincer. Hein. Voilà, mon échalote. Parfait, donc tout ça dans le cul de poule. On assaisonne. Alors un petit peu de fleur de sel. La bonne huile d'olive.
Et
un petit tour de moulin à poivre.
Et alors ça, on va le laisser tranquille toute la nuit.
Toute la nuit, voilà, je vais mettre mon vinaigre Barolo. Ça va aussi cuire la tomate. Et donc on va le passer au chinois. Donc c'est une passoire avec des grilles très très fines.
Ouais, très fin.
Et on va vraiment presser avec une louche pour récupérer vraiment le jus et la pulpe aussi. Hein.
Alors comme on est très organisé, chef, on en a préparé d'avance. Montrez-moi.
Alors voilà, ça donne ça.
Waouh, ça fait une espèce de... comme une soupe de tomates assez épaisse.
Et donc je l'ai mixé et je l'ai monté aussi encore à l'huile d'olive.
Alors une fois qu'on a notre soupe, qu'est-ce qu'on fait?
On va s'attaquer au Saint-Pierre. Je vais le tailler en ceviche un peu. Hein.
Ah oui, d'accord.
Des tranches comme ça, un peu des bouchées en fait. Donc je vais huiler ma plaque. Toujours l'huile d'olive. Donc là, je dispose mes morceaux de Saint-Pierre. On n'oublie pas d'assaisonner à la fleur de sel. Et là, je vais mettre quelques feuilles de marjolaine. Voilà, donc là, je vais le mettre au four.
Ouais, très bien.
120 degrés, c'est très bien. 3 minutes.
Alors là, chef, on a déjà tout en fait. Hein.
Voilà.
Notre poisson est cuit. Notre
soupe de tomate.
Notre soupe de tomate est prête.
Ouais. Voilà. Je vais mettre un pochon et demi dans une assiette creuse. Donc là, je vais disposer mon Saint-Pierre, quelques quartiers de tomates cerises. Hein. Voilà, donc là, je vais rajouter des petits croutons de pain, un peu de feuilles de basilic. Voilà.
Et alors là, qu'est-ce que vous rajoutez?
Voilà, et puis des olives.
Et enfin,
quelques gouttes d'huile d'olive.
Qui vient perler en fait sur la soupe, c'est magnifique. Voilà. On n'a qu'une envie, c'est de prendre une grosse cuillère là et tchac.
Mais vous voulez tester?
Ah bah, on est obligé, je crois.
Allez, on y va alors.
Non mais c'est la soupe de l'été. Ou l'été en soupe, ça marche dans les deux sens.
C'est ça.
C'est d'une fraîcheur. Bon, la tomate, elle est incontournable en été, mais on a le basilic, on a les petites olives, le Saint-Pierre qui vient aussi apporter une certaine douceur.
C'est ça, qu'on retrouve à la fin, avec la marjolaine, hein, qu'on sent bien. Hein. C'est rempli de soleil.
Merci infiniment, Marc Pontane.
Merci à vous, c'était un plaisir.
Et c'était un plaisir pour nous, ces recettes de l'été de Pierre Herbulot. Et bien sûr, vous la retrouvez, cette recette de la soupe de tomates qui nous fait tant saliver ce soir de Marc Fontane. Et les photos encore plus sur europe1.fr.
Retrouvez l'entretien de Philippe Legrand avec Ponant, la référence du voyage en mer à bord de petits yachts de croisière.
Une date, une histoire.
Bonsoir Philippe Legrand.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Il fait chaud, très chaud, alerte canicule en août 2003. Bonsoir Alain Baraton.
Bonsoir.
On vous appelle le jardinier du roi, une expression qui vous suit et vous poursuit même à l'étranger. Ce pourrait être un titre de noblesse, c'est surtout la réalité de votre activité. Alain Baraton, vous êtes le jardinier en chef du domaine national de Trianon et du grand parc du château de Versailles. Les arbres, les plantes, les bosquets royaux n'ont pas de secret pour vous. Vous, le roi des jardiniers, votre parole, comme votre main verte selon l'expression consacrée, porte et prospère. Il faut avouer que rien n'était écrit à l'avance dans votre vie. Cinquième d'une famille de 7 enfants, l'école n'est pas votre fort, des études en demi-teinte, mais la révélation d'un amour pour la nature fera la différence. Vous passerez d'un emploi saisonnier à la caisse du château de Versailles à cette profession de jardinier en chef du domaine royal, en franchissant en un temps record toutes les étapes. Ce soir, Alain Baraton, vous avez choisi de revenir sur ce mois d'août 2003. L'heure était à la canicule. Le ministre de la Santé, Jean-François Mattei, était en première ligne. Il se souvient sur Europe 1.
Au cœur de la crise, j'étais totalement inaudible. Il était impossible de dire quoi que ce soit. Il fallait un responsable, il fallait un bouc émissaire et c'est moi qui ai joué ce rôle.
Très difficile hein, cette époque. Août 2003, il fait chaud, très chaud. Une canicule terrible qui fait souffrir les hommes et la nature. Pourquoi avez-vous choisi cette date? C'est la mort d'un arbre célèbre?
C'est une date marquante, marquante pour le jardinier que je suis. Un arbre a besoin d'eau. Et la canicule, ce n'est pas qu'un besoin d'eau, c'est une chaleur excessive. Vous êtes sur la plage, vous avez beau boire la quantité d'eau que vous souhaitez, vous n'échapperez pas au coup de soleil. C'est ce qui s'est produit avec la canicule. Les jardiniers n'ont rien pu faire alors. J'ai choisi cette date parce qu'il y a eu la tempête de 1999 qui a commis les dégâts que l'on sait, mais on oublie que les dégâts causés par celle de 2003 aujourd'hui encore, se font ressentir. Donc oui, c'est une date pour moi extrêmement marquante.
Alors, il faut, Alain Baraton, se rappeler de cette canicule européenne de 2003, un événement climatique d'ampleur et sans précédent qui a duré du mois de juillet au mois d'août 2003. Et il y a derrière cette date la mort d'un arbre historique.
Un arbre incroyable, l'arbre qui faisait ma fierté, le chêne de Marie-Antoinette. Or, cet arbre, ce n'était pas moi qui l'ai appelé ainsi. Il était ainsi nommé parce qu'une légende prétend que Marie-Antoinette, quand elle venait à Trianon, profitait de son ombrage. Légende qui est peut-être vraie d'ailleurs. Mais il est vrai que cet arbre, qui avait résisté aux guerres, aux révolutions, à la terrible tempête dont on parlait, n'a pas résisté à ce soleil brûlant, mais d'une manière absolument incroyable. Et en juillet-août 2003, eh bien, nous constatons son décès, et c'est pour le jardinier que je suis, pour les amoureux de la nature aussi, un véritable choc.
Ce chêne de Marie-Antoinette, il a une histoire, il faut aller un peu plus loin. Ça correspond à cette date que vous avez choisie, à cette époque d'août 2003. C'est le doyen des arbres.
C'est l'histoire, c'est la mémoire de Versailles. Cet arbre est né en 1661-62. Imaginez, c'est la création du domaine de Versailles. Cet arbre est donc le témoin de Louis XIV, de
Louis XIV. 324 ans.
C'est considérable. Il est le témoin de 4 siècles d'histoire. Donc cet arbre est plus qu'un monument de sève et de bois. C'est la mémoire des lieux. Et mon histoire avec lui, elle est singulière. Je découvre Versailles en 76. Je ne suis guère impressionné par le lieu, même s'il y a de quoi vraiment surprendre. Mais quand je découvre ce monument, quand je le vois et quand je sais qu'il a en lui 4 siècles d'histoire, je me sens tout petit, petit, petit. Et quand il meurt en 2003, c'est pas seulement de la tristesse, c'est vraiment un chagrin énorme.
Alain Baraton, sa hauteur est incroyable aussi. 35 mètres, hein, ce que j'ai noté.
35 mètres, il y a des arbres beaucoup plus grands sur la planète. Les séquoias peuvent allègrement...
Mais dans le parc de Versailles, c'est une taille.
Oui, tout à fait. 35 mètres, ça en faisait l'un des arbres les plus grands, l'un des plus gros, l'un des plus beaux. Cet arbre n'avait pas connu la moindre coupe de sécateur, pas la moindre scie. Il était d'une beauté majestueuse. Il était beau, il était tout simplement extraordinaire.
Et s'il parlait, Alain Baraton, qu'est-ce qu'il nous raconterait? Les secrets de Marie-Antoinette.
Eh oui, imaginez qu'en 1900, mes prédécesseurs avaient pris soin de faire un petit rebord en muret, en pavé, permettant à ceux qui souhaitaient converser avec lui de pouvoir s'asseoir. Donc oui, il nous parlerait des secrets de Marie-Antoinette, il nous parlerait de la construction du château, il nous parlerait peut-être des doutes d'André Le Nôtre, peut-être parlerait-il également des aventures coquines parfois des sœurs de Napoléon qui souvent venaient jouer autour de l'arbre et dans les bosquets. Donc cet arbre, c'est extraordinaire. Il a été le témoin de la grande, de la petite histoire, mais aujourd'hui encore d'ailleurs, il continue de par sa souche qui n'a pas été détruite. Elle a disparu du Grand Trianon, mais elle est dans un bosquet dans le Grand Parc. Elle continue donc, d'intriguer ceux qui ont la chance de découvrir l'emplacement où nous l'avons posé.
Alain Baraton, ces arbres, vous les racontez aussi dans votre dictionnaire amoureux des arbres qui paraît aux éditions Plomb, de A pour abricotier à Z de Zamana. On a mal ou peu entendu parler de cet arbre. C'est un mystère d'Amérique du Sud ou des Antilles.
Oh, c'est un arbre merveilleux qui a la particularité d'avoir, quand il pleut, les feuilles qui se replient. Donc, pour faire simple, quand il y a du soleil, il fait de l'ombre à sa souche et évite la dispersion de l'eau. Quand il pleut, celle-ci se replie et permet à l'eau de venir baigner le tronc et la base de sa ramure. Donc, cet arbre a su s'adapter à son environnement. On en trouve beaucoup dans les Antilles. Il fut même sacré arbre européen de l'année, il y a quelques années à peine.
Et dans votre avant-propos, Alain Baraton, l'avant-propos de ce dictionnaire amoureux des arbres aux éditions Plomb, vous citez cette phrase de Buffalo, un chef indien. Les arbres parlent.
Oui.
Ils parlent.
Les Indiens d'Amérique étaient des sages qui, avant de couper une branche, s'excusaient auprès de l'arbre. Et Working Buffalo, lui-même, disait qu'il aimait converser avec les arbres, qu'ils avaient quantité de choses à nous dire, mais il rajoutait, malheureusement avec les Blancs, c'est qu'ils n'écoutent pas.
Alors vous allez prendre la mer, vous, l'homme de la terre, à bord du Champlain, on va pouvoir vous suivre. Vous allez faire parler des arbres au milieu de l'eau.
Alors déjà, c'est un endroit que j'aime beaucoup, parce que quand je regarde l'océan, je n'ai pas de travail, enfin, pas de plantes, pas de tonte à prévoir. Mais l'occasion aussi de rappeler à ceux qui auront la chance d'être sur ce navire, de parler de l'histoire des plantes, du voyage des plantes. L'immense majorité des plantes qui aujourd'hui ornent nos vergers ou nos jardins viennent d'Amérique. Et c'est un petit peu un retour aux sources que d'être sur un bateau sur les océans, à s'imaginer l'aventure des plantes.
Merci beaucoup Alain Baraton d'être venu sur Europe 1 avec vous. On a revécu cette canicule 2003 qui a aussi fait souffrir la terre. On s'est promené, on a feuilleté au fond Dictionnaire amoureux des arbres. C'est votre livre et on se quitte avec ce qui est dans votre playlist. Une chanson finalement pour l'été, Célébrer l'amitié.
Une très belle chanson.
Françoise Hardy, c'est elle. À bientôt.
À bientôt.
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages, la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors ils viennent se chauffer chez moi, et toi aussi tu viendras. Tu pourras repartir au fin fond des nuages et de nouveau sourire à bien d'autres visages. Donner autour de toi un peu de ta tendresse lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. Alors peut-être je viendrai
Quelle nostalgie, l'amitié de Françoise Hardy.
C'était l'entretien de Philippe Legrand avec Ponant. Cet été, la France est belle vue de la mer. Embarquez avec Ponant aux côtés d'invités prestigieux pour une croisière authentique et raffinée. Plus d'infos sur ponant.com.
Europe Soir Weekend, Fabienne Lemoyle.
Et à 18h50, dans un instant, on prend la direction de Londres avec la fièvre qui monte à la veille de la finale Angleterre-Italie.
Europe Soir, Fabienne Lemoyle.
Et on disait, veillée d'armes à Londres, à la veille de la finale Angleterre-Italie. Bonjour Jean-François Pérez.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Chef du service des sports d'Europe 1, c'est vous qui allez nous faire vivre cette finale de feu. On l'entendait dans un instant, à 21h demain au stade de Wembley avec Cyril de la Morinerie. J'imagine que la fièvre monte dans les rues de Londres.
Oui, écoutez, pour ne rien vous cacher, je suis au 12e étage d'un hôtel qui surplombe le stade de Wembley. Et en contrebas, je vois des gamins qui jouent au foot. Certains ont le maillot de l'équipe nationale. Je vois des gens qui se baladent avec le drapeau blanc et rouge. Donc oui, ici, vous savez, ça fait 55 ans que l'Angleterre n'a rien gagné en football. Mmh. Il y a une impatience qui est absolument extraordinaire. Donc oui, absolument, la fièvre monte ici.
Eh oui, si les Anglais gagnent quelques mois en plus après le Brexit, on imagine la résonance politique que cela pourrait avoir, comme le montre votre reportage.
Oui, entre football et politique, c'est un royaume divisé qui fonce vers sa première grande finale depuis 55 ans. Pour les partisans de la séparation, les performances anglaises sont une bénédiction. Le Brexit en action jubile un parlementaire en vue sur les réseaux sociaux. Du côté pro-européen, on lève les yeux au ciel, mi-fataliste, mi-agacé par ce mélange des genres, comme Brady qui joue au foot près de Wembley avec ses potes.
Je ne crois pas que ça ait grand-chose à voir, franchement. On a été dans l'Europe tellement longtemps, nous sommes fiers, car nous sommes l'une des plus grandes nations européennes.
C'est un fait, les clubs anglais dominent le continent depuis des années. 3 finalistes européens sur 4 ce printemps, mais la sélection aux 3 lions tardait à se mettre au diapason, d'où le soulagement de Justin, drapeau anglais sur les épaules.
En tant que nation, on a longtemps sous-performé. Regardez-vous la France, vous avez toujours eu de bons résultats. Si on arrive à gagner un grand trophée, je suis sûr qu'on pourra se qualifier pour d'autres finales.
Demain soir, sur le lieu même du triomphe mondial de 1966, le foot anglais a rendez-vous avec son histoire. Partisans ou non du Brexit, ils seront près de 70 000 à chanter leur hymne à gorge déployée. Quelques précieuses heures d'union nationale avant les inévitables récupérations politiques. Londres, Jean-François Pérez, Europe.
Voilà, on l'a bien compris, Jean-François, qu'on soit pro, anti-Brexit, les Anglais sont confiants.
Oui, on peut même parler de d'England Mania ici, parce que même le quotidien très mesuré d'habitude et peu porté sur le foot, The Guardian, propose ce samedi 30 pages sur la finale et toute la presse anglaise est persuadée que le fait de jouer à domicile sera décisif. Alors après, il y a les joueurs, ils préparent ce match dans leur centre d'entraînement dans les Midlands, à 300 km au nord d'ici. Ils s'appuient avant tout sur leur solidité défensive. Un seul but encaissé durant toute la compétition, c'était face au Danemark. Et l'un des grands artisans de cette réussite, c'est l'impressionnant défenseur central de Manchester United, Harry Maguire. Écoutez-le, il est très fier de cette statistique.
Oui, c'est un vrai plus pour nous. 7 matchs sans encaisser de but, c'était quand même remarquable. Mais ce n'est pas juste grâce aux défenseurs. Cela part du gardien, c'est le travail de toute l'équipe en fait. Ce sont nos bases, nos fondations. Des attaquants devant, qui pressent les adversaires, qui travaillent sans relâche. Et le plus petit détail qui peut devenir décisif. Voilà pourquoi on se sent solide. Bien sûr, ça nous apporte beaucoup. Le plus important dans ce jeu, c'est de gagner des matchs. Et cette solidité nous permet d'atteindre cet objectif.
Bon voilà, atteindre cet objectif, dit le défenseur central de Manchester United. Les dernières nouvelles des deux équipes, anglaises et italiennes, à 24 heures de la finale.
Alors les Italiens sont arrivés à Londres en début d'après-midi, un vol sans encombre au départ de Florence. Tout le monde est là, même Gianluca Vialli, l'ex-star de l'équipe italienne qui est aujourd'hui le chef de la délégation. Figurez-vous qu'il a failli rater le bus, il s'était trompé d'heure, peut-être qu'il était déjà à l'heure anglaise. Quant en Angleterre, justement, petite incertitude autour de Phil Foden, le talentueux milieu de Manchester City. Il ne s'est pas entraîné avec le groupe cet après-midi officiellement pour un coup sans gravité. Après pour le reste, aucun problème, si ce n'est, Fabienne, les fourmis volantes. La menace est prise très au sérieux ici. Oui, mais absolument. Il pourrait y avoir un impressionnant nuage demain sur la pelouse de Wembley. Il paraît que c'est déjà arrivé à Wimbledon, notamment quand il fait frais et humide, comme c'est le cas exactement en ce moment ici. Donc on va suivre ça de près. Rien de grave, mais c'est, paraît-il, particulièrement désagréable.
On imagine. Merci beaucoup Jean-François. Rendez-vous demain 21h pour cette finale de feu entre l'Angleterre et l'Italie. Alors, Laurent Cabroche, je ne vais pas vous demander la météo à Wembley, mais déjà, alors que les vacances sont là, est-ce qu'on va enfin pouvoir parler d'été ?
Oh là là, l'amélioration est spectaculaire. C'est une amélioration qui ira crescendo durant la journée de demain et surtout qui sera résolument optimiste, mais pour peu de temps. Cette amélioration ne va durer qu'une journée, hélas oui, puisqu'une perturbation approche et nous la verrons demain sur les côtes bretonnes, elle apparaîtra dans le courant de la journée. Mais partout ailleurs, après quelques brumes matinales, les éclaircies se pointeront, ou arriveront, pardonnez-moi, sur la moitié nord en tout cas, et sur la moitié sud, elles seront là dès le lever du soleil, il fera très très beau. Les températures méritent notre attention, pourquoi ? Parce qu'il fera 34 degrés à Nîmes demain, 33 à Albi, 32 à Marseille, 30 degrés du côté de Bastia, 28 à Lyon, 26 à Clermont-Ferrand et à Niort, pour ne citer que ces villes, 24 à Paris, oui, 23 du côté de Charleville-Mézières, Nantes, Lille, Alençon, Rouen, Beauvais, et 18 degrés à Brest et à Boulogne-sur-Mer.
Et du côté des plages, justement, Laurent ?
Ah, ça sera pas mal sur l'Atlantique. Ah, profitons-en, du soleil, sauf sur les côtes bretonnes. Comme je disais dans la météo en général, les côtes bretonnes seront sous des régimes d'averses, mais partout ailleurs, sur les côtes atlantiques, le soleil sera présent avec des températures de 21 à 25 degrés en bord de mer et de 18 à 21 degrés durant la baignade. Manche et mer du Nord maintenant. Ah, c'est moins souriant tout de même. Entre Brest et Cherbourg, Brest, Cherbourg, Romanche, dans ce secteur-là, c'est un régime d'averses qui va se manifester. 18 degrés seulement. Aïe, aïe, aïe. Et la température de l'eau, n'en parlons pas, à Perros-Guirec, tenez, ce sera un petit record à la baisse, 15 degrés seulement la température de l'eau à Perros-Guirec, nous dit Météo France. Entre Deauville et Dunkerque, des éclaircies, 17 à 19 degrés sur les plages et 17 degrés dans l'eau, c'est encore un peu frais, même très frais. En Méditerranée, c'est le grand beau temps, 29 à 31 degrés sur l'ensemble du bassin méditerranéen avec un vent calme, il fera même 32 degrés en Corse et puis la température de l'eau est un régal, 20-22 dans le golfe du Lion, 24 sur la côte d'Azur et 25 degrés en Corse. Oh là là, bonnes vacances.
Merci beaucoup Laurent Cabrol pour ces bonnes nouvelles. C'était un vrai
Fabienne Lemoyle.
Bonheur de vous accompagner toute cette heure. On va se retrouver demain 12h30 pour Europe Midi Week-end. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Elena Noguera, les millésimes, pour vous replonger au cœur des archives d'Europe 1 et bien sûr, juste avant, le journal de 19h.